Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous continuons le livre « Recouvre-le de lumière » de Alain Mancouquiol-Verdier-Poche. En continuant ce livre, Alain Mancouquiol continue à passer beaucoup de temps en Espagne. Il tente, difficilement quelquefois, de se faire connaître dans la tauromachie espagnole. Mais petit à petit, les choses vont s'améliorer, même si les petites arènes sont quelquefois uniquement des charrettes mises les unes à côté des autres. Un cercle de charrettes sur la place d'un village, pourquoi pas ? Alors, reprenons notre lecture. L'absurdité de mes réflexions et de ma vie me faisait alors rire de moi-même, et cela me faisait du bien. Je savais, en même temps, que cette situation ne pouvait pas durer. Elle changea d'abord lorsque j'appris que l'on pouvait donner son sang dans certains hôpitaux et être très bien payé. Les donneurs ne manquaient pas, et la file était longue. On pénétrait dans une pièce blanche où l'on était mesuré et pesé. Il suffisait alors de correspondre au rapport taille-poids requis pour être admis. Le prélèvement fait, on me remettait deux tickets. Avec l'un, j'allais m'asseoir dans une charmante petite salle aux tables fleuries où l'on m'apportait un magnifique goûter. Avec l'autre, j'allais jusqu'au guichet encaisser 600 pesetas. Lorsqu'il manquait à quelqu'un un peu de poids, il lui suffisait de revenir le lendemain après s'être rempli d'eau. 600 pesetas, c'était beaucoup. C'était 600 petits pains ou 60 repas dans un restaurant que nous avions découvert dans une ruelle derrière l'avenue José Antonio. Dans la vitrine était exposée une série d'articles de journaux vantant le restaurant le meilleur marché du monde. Pour 9 pesetas, nous pouvions manger 2 plats et un fruit. C'était bien sûr le rendez-vous de tous les fauchés, les calamiteux, mais contrairement à ce que j'avais craint, il n'y avait ni honte ni gêne. Et la salle résonnait du même brouhaha joyeux que dans les autres établissements. Rien sur les tables, surtout pas les fioles d'huile et de vinaigre que nous nous serions empressés de vider dans la soupe pour la rendre plus nutritive. Une seule tranche de pain par personne, mais quelle délice de se jeter sur une assiette pleine à ras-bord d'une brûlante soupe aux haricots ou de découvrir dans le ragoût de pommes de terre une pépite de viande de graisseuse. Les 600 pesetas de la vente de sang, c'était beaucoup de repas. Mais en réalité, nous commencions toujours nos dépenses par quelques folies, un verre de vermouth et une grande ration de calamar au soleil d'une terrasse de la Plaza Mayor, ou carrément une assiette de Ramon Serrano. Dans les pensions de famille, la douche était à ajouter au prix de la chambre. Elle était quelquefois froide et son temps contrôlé. Les bains publics, par contre, Plaza de Oriente, étaient un délice. Le jet était très puissant, l'eau brûlante, nous sortions de là avec une forme extraordinaire et le sentiment que la vie était très belle. En remontant la calle del Arenal vers la Puerta del Sol, nous nous arrêtions souvent chez le bouquiniste. C'est là que j'ai un jour acheté un livre de poche en français, à la couverture vert clair et au prix ridiculement bas. Les œuvres complètes d'un auteur que je ne connaissais pas, Arthur Rimbaud. À lire et relire ces textes, j'éprouvais une véritable exaltation et je finis par penser à l'auteur comme s'il s'était agi d'un ami, d'un complice. Bernard, tout comme moi, n'avait pas de contrat et nous étions désœuvrés. Nous nous lançâmes tous les deux dans une véritable boulimie de lecture. Sartre, Camus, Genet, Edgar Poe, Baudelaire, Lautréamont, les surréalistes. Nous échafaudions de fumeuses théories où nous mêlions littérature, philosophie, politique et tauromachie. nous nous parlions dans un mélange de français et d'espagnol, auquel nous ajoutions le vocabulaire très particulier du monde des taureaux. Le matin au bar, Bernard meuglait entre deux gorgées de café au lait pendant que je me promettais de traverser tout le parc du Retiro en jouant d'un tambour imaginaire. Nous nous étions fabriqués plusieurs personnages que nous interprétions au gré des circonstances et de nos états d'âme. Agents secrets, nous suivions quelques passants louches et ne parlions que par toki-woki imaginaire. Lecteurs de Tauros, chercheurs, explorateurs ou cosmonautes, tous nos personnages avaient un point commun. Ils étaient tellement pris dans leur folie et dans leur passion, tellement englués dans leurs univers, qu'ils étaient en réalité complètement en dehors du monde. Et cela nous faisait rire. Opportune psychothérapie, en quelque sorte. Parce qu'un jour nous avions rencontré les taureaux et que notre désir de les affronter n'était pas apparu très normal, nous n'avions eu d'autre choix, pour ne rien changer à nos rêves, que de foncer aveuglément vers une sorte d'amour irraisonné de la normale. Une logique dans l'absurde que nous nous efforcions de maintenir, car nous sentions confusément que là était notre seule arme contre le découragement. Je chantais à pleine voix « Tombe la neige », le succès du moment, alors que nous ruisselions de sueur en plein mois d'août. Bernard alignait trois livres et faisait mine de les lire en même temps, sautant de l'un à l'autre le doigt pointé pour ne pas perdre l'alignement. Nous allions au musée d'art moderne, nous fréquentions des gens étranges qui n'avaient rien à voir avec les taureaux. Des originaux, tels que ceux Julio Vieira et ses conférences chantées et sifflées. Parfois, très rarement, l'un de nous portait toré et l'autre ressentait alors une grande jalousie. Mais l'essentiel de notre vie consistait à trouver des combines pour durer, pour rester encore en Espagne, pour, surtout, ne pas retourner vaincu en France. Ne plus entendre « il faut du sang espagnol dans les veines pour devenir torero ». Un jour, nous eûmes le culot de faire des dessins à la craie sur le trottoir. C'est à Salamanque, dans une ruelle derrière la Plaza Mayor, que j'avais découvert lors de mon premier séjour solitaire en Espagne cette technique qui allait un temps nous rapporter quelque argent. J'avais aperçu un attroupement autour d'un type à quatre pattes sur le trottoir, en train de colorier avec des craies un portrait déjà esquissé sur le sol. Il traçait en zigzag sa couleur, puis, du bout des doigts, comme avec un pinceau, étalait la poudre de craie, et les couleurs se fondaient, se mariaient harmonieusement en un tableau que j'avais trouvé magnifique. Les badauds, fascinés, jetaient de bon cœur des poignées de petites monnaies dans une boîte en carton. La mode de dessiner sur les trottoirs n'était pas encore répandue en Espagne, et le succès était considérable. Christian, c'était le nom de l'artiste, était français. Généreux, aventurier, bohème, il m'avait expliqué qu'il pouvait ainsi voyager et vivre sans trop de problèmes. Nous nous décidâmes à l'imiter et à investir dans l'achat de craies et de cartes postales qui nous serviraient de modèle. Notre premier essai, à deux pas du Palais Royal, fut un échec total. Nous avions décidé de reproduire, car le tableau nous paraissait très simple, la jeune fille au chat de Matisse. Une journée de travail acharnée ne nous avait rapporté que 14 pesetas. Nous fîmes le point. Mauvais quartier, mauvais choix de sujet, mauvais public et surtout mauvais peintre. Cependant, notre deuxième essai fut un succès. Un quartier populaire. La Vierge Marie du Gréco dessinée devant une église, non sans avoir auparavant demandé l'autorisation au curé. Nous commencions par tracer à la perfection un grand rectangle, puis à esquisser le grand châle bleu, puis la forme du visage en laissant bien en évidence la carte postale, témoin et preuve de la finalité de notre entreprise. Nous gardions bien sûr, pour la fin, le plus difficile, les traits du visage. L'absence d'interdiction et l'autorisation formelle du curé nous ôtaient toute crainte de la garde civile. Quant au texte que nous écrivions au bas de notre œuvre, il expliquait modestement que nous souhaitions, en peignant, gagner de quoi manger et continuer notre visite de l'Espagne. L'épée s'est à s'accumuler. Une vieille dame laissa un jour tomber à mes pieds un paquet. Je le ramassai et me précipitai pour le lui rendre. « Non, non, es para ti, c'est pour toi ?» C'était un sandwich au jambon et un fruit. Merveilleux habitant d'Embajadores, qui plusieurs jours après notre passage faisait encore un écart pour ne pas marcher sur notre pauvre vierge inachevée. Parfois, bien coiffés, rasés, correctement vêtus, nous pouvions assister à des cocktails et à des vernissages, des conférences de presse, manger et boire dans des salons feutrés et superbement éclairés. Nous sortions de ces lieux enchanteurs en nous vouvoyant, vitupérant contre nos chauffeurs qui s'occupaient si mal de nos limousines. Nous nous séparions en nous donnant rendez-vous à New York, à Tokyo, pour une prochaine vente aux enchères qu'il ne fallait pas manquer, à aucun prix. Nous mangions à notre faim. Nous trouvions dans nos lectures un écho amical à notre bohème. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Nous n'étions pas venus en Espagne pour cela. Et cette vie plaisante un moment ne me convenait pas. Au fond de moi, j'en avais même honte. Il y avait certainement des écrivains, des musiciens, des peintres qui vivaient aussi mal que nous. Du moins, eux, en attendant des jours meilleurs, jouissaient d'une certaine liberté dans la création. Mais nous, comment oublier le visage de celui qui, à l'entraînement, tient au bout de bras une paire de cornes? Comment imaginer vraiment le taureau? Comment surtout fabriquer la peur, le danger? Comment savoir, sans la présence du taureau, jusqu'où nous serions capables de pousser encore cette folie qui nous avait conduits dans cette drôle de vie? Nous étions là comme des vagabonds sans projet, sans espoir du côté des taureaux, contraints de gaspiller notre temps dans le seul but de prolonger une attente sans horizon. Je sentais intuitivement qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux, une confusion, une perversion à comparer la dureté de mon combat quotidien avec celui qui m'opposerait peut-être un jour au taureau. J'en étais sûre, affronter le taureau était bien plus difficile, bien plus dangereux. C'était sur ce terrain-là, pourtant, celui du taureau, que je devais définitivement me trouver ou me perdre, et nulle part ailleurs. Il restait, bien sûr, les capeas de village. C'était le rendez-vous de ceux qui voulaient vraiment affronter le taureau. Là, il ne s'agissait plus de gagner sa croûte en étant malin, culotté ou habile. Il s'agissait de prouver, de me prouver que l'argent, celui du strict nécessaire pour vivre, j'étais capable d'aller le chercher entre les cornes. Souvent, d'ailleurs, il n'y avait qu'un seul taureau, le village n'ayant pas les moyens d'en acheter plusieurs. Pas question alors de le toréer et de le tuer en 20 minutes, comme dans les courses sérieuses. Le taureau devait durer. On le faisait d'abord courir dans les rues du village. Puis il entrait en piste pour une heure ou plus, passait par le toril, le temps pour le public d'un entracte casse-croûte avant d'être à nouveau relâché dans l'arène. Si bien qu'au terme d'une journée, l'animal en connaissait bien plus sur les secrets de la tauromachie que tout le savoir accumulé par les gamins chargés de l'affronter. Rien ne distinguait les toreros des autres jeunes gens qui envahissaient la piste. mais il suffisait d'être vu une seconde avec une cape dans la main pour être reconnu torero. Certains nouaient sur leur ventre les pans de leur chemise et se démarquaient ainsi des autres. En réalité, un observateur attentif aurait pu, bien avant, reconnaître les toreros dans cette foule joyeuse, au sérieux, à l'air préoccupé, à la dureté du regard, aux marques de la peur. L'arène n'était le plus souvent qu'un cercle ou un rectangle de charrettes étroitement collées les unes aux autres sur la place du village, avec en son centre, quelquefois, la fontaine publique où s'entassaient les pieds dans l'eau des groupes de jeunes gens braillards. Dès que le taureau entrait dans la piste, il courait en tous sens pour se mettre à l'abri, s'accrocher aux roues et aux ridelles. Les autorités, les femmes, les vieux, étaient depuis longtemps confortablement installés sur leurs chaises, disposés en rang sur les charrettes. Les jeunes filles formaient souvent un seul groupe. Elles chantaient, tapaient dans leurs mains, conscientes d'être regardées, admirées, heureuses à l'idée que tous les garçons n'étaient en piste que pour les séduire ou se faire remarquer d'elles. Ces spectacles étaient dangereux. Le public pouvait passer très rapidement de l'enthousiasme à la colère, des jets de fleurs aux jets de pierres. Le brouhaha était assourdissant. Une fois entré dans l'arène, il était quasiment impossible au torero d'en sortir. Car, qu'il ait plu ou déplu, le public veillait à ne pas laisser s'enfuir son héros ou son souffre-douleur. C'était un spectacle joyeux et cruel, complètement improvisé, où tout pouvait arriver. Mêlés aux petits toreros, les jeunes du village, les plus cruels avec nous, se déplaçaient n'importe comment dans la piste. Parfois éméchés, inconscients du danger, ils étaient souvent surpris, poursuivis, rattrapés dans leur course maladroite, projetés en l'air ou roulés au sol, quelquefois sérieusement blessés. Nous assistâmes à l'épouvantable spectacle d'un jeune homme, incapable de grimper sur une charrette pour s'y mettre à l'abri, que le taureau empala sur place, malgré les efforts du malheureux qui s'accrochait de toutes ses forces aux ridelles de bois. Le taureau l'arracha, le promena un instant au bout de la corne avant de le projeter au sol et de l'abandonner comme un tas informe. On emporta le blessé qu'on déposa sur le billard du bistrot enveloppé dans une de mes capes. Quand je l'ai retrouvée plus tard, elle était tellement ensanglantée que je n'ai pas eu le courage de la récupérer. Dans un autre village, on avait posé contre le mur de l'église qui délimitait une partie de la piste, deux poteaux télégraphiques sur lesquels étaient cloués plusieurs étages de planches, comme autant de barreaux d'une échelle géante où s'étaient assises quelques dizaines de personnes. Dès son entrée, le taureau, fort et agressif, réussit d'un coup de tête à soulever l'échelle, précipitant au sol une grappe de spectateurs affolés. Je courus pour leur venir en aide, mais le taureau, se retournant contre moi, me poursuivit, la corne dans les reins, sur toute la longueur de la piste, au milieu des hurlements. Dans un bond désespéré, j'atterris à l'intérieur d'une charrette remplie d'un groupe de vieilles dames, dont quelques-unes tombèrent de leurs chaises en poussant de grands cris. Ce genre d'incident enthousiasmait le public qui riait, applaudissait, commentait longuement ce qui resterait dans les mémoires comme les grands moments de la fête. Il fallait alors rapidement prendre à deux une cape et l'attendre pour que les spectateurs, encore sous le coup de l'émotion, y lancent quelques pièces de monnaie. Quelques privilégiés dont les fenêtres ou le balcon donnaient sur la piste faisaient parfois descendre un panier accroché à une corde et les toreros que le public avait appréciés pouvaient se servir copieusement fromage, jambon, pain et vin frais dans la gourde de cuir. la bouche pleine, les triomphateurs saluaient de la main les généreux donateurs, sous le regard envieux de leurs camarades moins chanceux. Je faisais équipe avec un jeune Mexicain, José. Comme moi, il banderillait. Nous étions très habiles. Dès que l'un posait une paire de banderilles, l'autre, déjà en pleine course, ne laissait pas le temps au taureau de se repérer et clouait immédiatement une seconde paire. Quatre banderilles en quelques secondes, Pépé et moi tombions dans les bras l'un de l'autre. Le public ravi nous applaudissait et jetait de bon cœur une grêle de pièces dans la cape que nous lui tendions. « Attrape, Marenito, 5 duros !» José, c'était le petit brun, car il était très bronzé. Moi, j'étais le rouge, car je portais toujours une chemise de cette couleur. De retour à Madrid après ces expéditions, c'était une joie formidable de poser sur la table d'un restaurant des poignées de pesetas et de lancer fièrement aux garçons « ce que vous avez de meilleur !» Parfois, je repensais à ce village où des jeunes gens menaçants m'avaient arraché l'épée des mains. Puis, du haut d'une charrette, s'en était servi pour essayer de blesser le taureau. Dans un autre pueblo, j'avais vu trop tard pour pouvoir l'empêcher, un groupe de gamins et aussi d'adultes agglutinés contre le toril qui profitaient de l'entracte pour planter puis arracher chacun à son tour une banderille sur le dos ensanglanté de l'animal captif. Aucun torero n'aurait jamais pu faire de telles saloperies. Dans les vrais corridas, ce n'est pas parce que l'homme accepte loyalement le danger du taureau que peut surgir une émotion complexe, capable de mener acteurs et spectateurs au-delà de la dureté réelle du spectacle, vers un éventail d'émotions, d'interrogations qui n'ont échappé qu'à peu d'artistes. Si les toreros ont inventé des règles pour affronter les taureaux, tout comme les hommes en ont inventé d'autres pour vivre ensemble, c'est que sans elles, nul n'est à l'abri du réflexe barbare. La corrida, tel un condensé de la vie, nous parle de nous-mêmes, de l'horreur et de la splendeur qui se cachent au fond de nous et qu'elle met au grand jour. Ces KPA étaient un saisissant retour à ce que la tauromachie avait dû être avant que les hommes ne décident d'en faire un métier, un spectacle. C'était aussi une tradition, mais une tradition de la cruauté appliquée à l'homme et au taureau comme divertissement. Une façon de s'oublier un instant dans la tragédie, le triomphe ou l'échec des autres à travers un combat aussi dur et impitoyable que celui de la vie des villages où elle se déroulait. Et les banderilles que les gamins plantaient sur le dos d'un taureau incapable de se défendre n'étaient que l'équivalent des pierres qu'ils jetaient certainement à l'idiot du village. Décidément, rien n'était simple. Mais je n'étais pas longtemps tourmentée par mes réflexions. Quelques jours sans taureau, sans argent, et rien ne me parlait aussi fort et juste que le gargouillis de mon estomac. À 12 ans, lorsqu'il rencontre Lucien Orlovski, Chinito, d'un an son aîné. C'est le début d'une amitié qui mènera les deux gamins jusqu'aux portes de la tauromachie professionnelle. Les novellieros français, Jacques Brunet-Jacquito, Frédéric Pascal, Robert Pilès, Simon Casas ou moi-même, avons tous alors une vingtaine d'années. Et naturellement, ni Christian ni Lucien ne se sentent très à l'aise dans cette équipe de vieux. Christian est timide, Lucien parle peu, mais ils ont les mêmes rêves, une même passion qu'ils vont vivre désormais ensemble, intensément, avec un mélange de sérieux et d'ingénuité que je découvrirai peu à peu lorsque, entre deux voyages en Espagne, ils me raconteront leurs premières aventures. Ils sont inséparables. Un baluchon accroché à l'épaule, une lourde barre de fer à la main, ils ne se lassent pas de parcourir en d'interminables randonnées la garrigue nîmoise. Ils marchent, courent, escaladent, font des exercices avant de déplier cap et muleta et de commencer à toréer dans quelques clairières isolées. Alternativement, chacun se fait taureau puis torero. Leur entraînement est dur, mais ils trouvent du plaisir dans ces efforts qui les endurcissent et les préparent à ce qui leur plaît plus que tout au monde. Toréer. Ils deviennent clients de la droguerie de M. Pelletan, artillero, le critique taurin de Midi Libre, chez qui ils achètent la teinture rouge dans laquelle ils font tremper les draps de lit volés à la maison qu'ils taillent ensuite, puis cousent en forme de mouleta. Ils s'approvisionnent ensuite en cristaux de gomme arabique qu'ils savent patiemment faire fondre dans une casserole d'eau bouillante. La vieille cape molle et rapiécée, étalée en éventail sur le sol, repassée du plat de la main pour en faire disparaître le moindre pli, est alors badigeonnée au pinceau avec le liquide poisseux. En séchant au soleil, l'étoffe devient rigide, cartonnée, et lorsqu'il la soulève pour esquisser une petite passe, il s'exclame « Elle t'aurait toute seule !» Avec les branches bien droites ramenées de la garrigue, débarrassées de leur écorce et marquées à leurs initiales avec un clou chauffé à blanc, ils fabriquent des épées et des palos. Ils ont aussi une provision d'aiguilles, d'aiguilles de fil, jaunes et roses, pour repriser la cape, rouge pour la mouleta, et de la guidoline écarlate pour recouvrir le pommeau des épées. La tauromachie de Christian et de Chinito commence par une interminable série de travaux pratiques. Toutes leurs pensées vont au taureau. Celui qu'ils imaginent, celui dont ils observent le combat dans l'arène, celui qu'ils imitent jusque dans son souffle lorsque, tenant à bout de bras une paire de cornes, ils chargent de toutes leurs petites jambes sur la cape ou la mouleta agitée devant eux. Les occasions de mesurer à la réalité leur tauromachie imaginaire ne manquent pas. Dès le printemps, tous les élevages en Camargue reçoivent les aficionados des clubs taurins pour des journées champêtres qui commencent toujours par la ferrade de quelques anoubles et finissent par le lâcher dans le bouvao de plusieurs vachettes et taureaux emboulés. Pour Lucien et Christian, la ferrade n'est pas un spectacle auquel ils assistent passivement. Couchés dans l'herbe, cachés derrière les rares buissons de jonques ou de tamarins, ils attendent le cœur battant l'arrivée au trot des cavaliers qui entourent le jeune taureau et le conduisent vers le feu de bois où rougissent les fers. Ils sont impatients de se lever d'un bond et de courir jusqu'entre les pattes des chevaux pour saisir l'animal, une corne dans chaque main, et tenter de l'immobiliser avant que les autres amateurs ne l'attrapent à leur tour, le couchent au sol et l'y maintiennent pendant qu'on applique sur sa cuisse la marque de la manade. Dans un grésillement de poils brûlés, s'élève avec le mugissement sourd du taurillon une fumée blanche dont l'odeur âcre imprègne les vêtements. Avant qu'on ne libère le petit taureau, Christian et Lucien s'éloignent pour se placer entre lui et le troupeau, qu'il s'empressera de rejoindre dans une dernière charge furieuse que les gamins ravis éviteront d'un écart ou d'un saut. Pour eux, la ferrade est une sorte de concours pour être le premier à attraper l'animal qui, parfois, lorsqu'il est fort, entraîne le gamin accroché à ses cornes. Toucher le petit taureau, l'attraper, lutter corps à corps avec lui, sentir son souffle tiède et son odeur serrer ses cornes de toutes ses forces, puis le relâcher dès que les autres viennent à la rescousse. Seul compte ce face-à-face, ce force-à-force qui cesse d'être exaltant dès que la lutte devient inégale. Ainsi, bientôt rejoints par Andalus, Dominique et d'autres gamins de leur âge, Christian et Chinito, hors du circuit professionnel, vivent une succession d'aventures que mon frère gardera dans sa mémoire, comme le temps d'une sorte de tauromachie idéale, fraternelle et joyeuse. « Nous étions toujours ensemble, » disait Christian. « Je mangeais chez Lucien, il dormait chez moi. Nous étions souvent habillés pareil, j'avais les yeux bridés et les gens croyaient que nous étions frères. Ça me faisait plaisir. » Pendant l'été, la succession de fêtes votives leur permet de torer plusieurs fois par semaine. Arrivés en autostop, en vélo, parfois dans la voiture de quelque ami aficionado, il leur suffit de se laisser guider par la musique criarde, toujours la même, de quelques passo-doble pour trouver le chemin des arènes du village. La vachette, avec ses emboulages en cuivre ou en aluminium vissés sur les cornes, galope en tous sens, saute souvent par-dessus la barricade. Il se précipite alors à droite et à gauche de la porte qui la ramènera en piste pour que l'un d'eux puisse, à coup sûr, s'immobiliser une seconde, le temps d'une passe rapide, puis courir derrière elle en criant dans l'espoir qu'elle se retourne. Parfois, lassé de sauter, de sillonner la piste, tantôt en chargeant, tantôt en fuyant, la vachette s'arrête, le mufle au sol et gratte le sable de ses sabots noirs. C'est le moment de s'approcher, droit comme des toreros, de la provoquer pour l'entraîner dans une succession de charges, une série de passes dont il ressort essoufflé. Dans l'émotion, on en arrive à oublier de respirer. Déçu aussi, car la vachette, leur vachette, les abandonne pour se lancer à la poursuite d'un raseteur. Ils redécouvrent alors la piste, le public, le monde oublié, effacé un instant dans l'exaltation d'une brève et vertigineuse intimité. Leur désir de torer dans de meilleures conditions nous donne l'idée d'écrire aux mairies, au club taurin des villages pour leur proposer d'inclure une capéa au programme de leur fête. À notre grande surprise, plusieurs réponses favorables nous parviennent. Il nous faut dès lors nous organiser, prévoir tous les changements qu'exigent leur sortie de l'anonymat et les hisser à la hauteur du petit spectacle pour lequel leur nom, Chinito et Christian, sont désormais imprimés sur des affiches. Ce sera d'abord une tenue correcte, un pantalon de velours noir, une simple chemise blanche et un jeu de ceinture rouge ouverte. Un seul sombrero, trop grand, ne servira qu'à saluer le public ou la présidence. Le plaisir qu'ils ont à torer est séduit immédiatement. Il faut dire qu'ils sont épatants, courageux, sympathiques, qu'ils rivalisent d'audace dans un répertoire étonnant pour des gosses si jeunes. Il n'y a pas de mise à mort, bien sûr, mais lorsque le taureau regagne le toril et que la présidence annonce l'octroi d'oreilles symboliques, ce sont de véritables oreilles longuement séchées sous d'épaisses couches de sel qu'ils montrent au public surpris et ravi par leur étonnante trouvaille. Rares sont les villages d'où ils ne repartent pas avec de nouvelles promesses d'engagement. En les regardant recoudre les capes et les muletas que je leur ai données, lacérées par les cornes pointues des petits taureaux, je me prends à rêver avec eux à d'autres aventures. En juillet 1969, alors que le monde entier attend les premiers pas de l'homme sur la Lune, les deux gamins ne se lassent pas d'aller par la route du Vacarès jusqu'à l'élevage de M. Pourquier. Assis derrière leur canne à pêche, ils surveillent bien plus le troupeau de l'autre côté de la Roubine que les bouchons de leur ligne filant dans l'eau trouble. Ils cherchent les deux novillos déjà choisis qu'ils devront toréer et tuer pour la première fois le 19 juillet à Saint-Gilles. Les taureaux sont éparpillés dans un champ au milieu duquel s'élève une vieille bâtisse de pierre à moitié effondrée, dont ils sont les seuls habitants. Ils frottent leur cou à l'angle des murs, s'éloignent en broutant pour revenir dans l'ombre des pierres, sans un regard pour les jeunes pêcheurs. « Ce sont eux! Regardez comme ils sont beaux !»« Un peu petits !» Non, non, vous les voyez de trop loin, ils sont très bien pour vous. » Le 19 juillet, Christian et Lucien ont déposé tout leur équipement dans l'arrière-salle d'un café où ils s'habilleront pour la course. Puis, ils sont allés à pied jusqu'aux arènes, revoir une dernière fois, avant de les affronter, les deux taureaux. Ils grimpent contre le tauril, et sont suffoqués. Vus d'aussi près, ils ne les reconnaissent pas. Ils les trouvent énormes. Nous sommes sortis et nous nous sommes assis sur une murette de pierre au soleil, complètement abattus, raconte Christian. Quelques heures plus tard, je regarde ému les deux gamins disparaître par la grande porte des arènes, portés sur les épaules des spectateurs. Ils ont triomphé. Christian m'avouera avoir eu de la peine en voyant le novillo tomber mort à ses pieds. Je le revois encore, levant vers les gradins les deux oreilles, avec dans le regard un étonnement qui finira par se transformer, lors du tour de piste, en un sourire radieux dont le souvenir aujourd'hui me glace le cœur. À la fin de l'année, aux côtés de Lucien, Pascal, Jaquito et El Andalus, Christian fera pour la première fois le paseo à Nîmes devant des gradins déserts. Il coupera l'oreille d'un gros et Astifino Novillo de Ferney. La première oreille, le premier succès d'une longue série qui s'échelonnera sur 20 ans et s'achèvera un dimanche de Pentecôte 1989, 4 mois avant le tragique rendez-vous d'Arles, quand il releva le défi que le destin avait mis sur sa route. 6 grands taureaux de Guardiola, tout le mistral de la terre et l'incroyable bonheur de sentir 20 000 personnes communier avec lui dans cette épreuve terrible et superbe. Notre fin de lecture parle des premières rencontres de Christian Moncouquiole avec les taureaux et de son amitié avec Chinito. Ce n'était pas facile d'entrer dans le monde espagnol du taureau pour Alain, et ça ne sera pas plus facile pour Christian et Chinito. Mais nous en apprendrons plus dans la suite de nos lectures. À bientôt, chers auditeurs. Je lis pour vous sur Radio Alliance Plus.
En streaming ou en podcast, toutes nos émissions sur radioallianceplus.fr.